RCF.
h 10 sur RCF, Reims-Ardenne, le 18-19, Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Alexis, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne. Aujourd'hui, exceptionnellement...
Surtout RCF Reims-Ardenne d'ailleurs.
Oui, parce qu'ils ne sont pas rassemblés, parce que nous sommes dans une période un peu particulière. Les vacances scolaires, c'est un magazine régional, mais aux dimensions de la Champagne-Ardenne.
Tout à fait, c'est un magazine local en dimension régionale peut-être.
Absolument, en tout cas, c'est la subtilité.
Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre, on est aussi avec nos amis de l'Aube, de la Haute-Marne, avec la plaque du DAB+, maintenant.
Absolument.
Donc on pense évidemment à ceux qui nous rejoignent et qui écoutent d'habitude sur la bande FM via RCF Cœur de Champagne aussi. Ils se régaleront pendant ce magazine. Dans nos studios, nous avons Alice qui est toujours là, notre stagiaire à la rédaction. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Avec les tendances météo en fin d'émission et du pain sur la planche également pour préparer pas mal de documents pour les petites sauces internes de la radio, comme on dit Jean-Pierre.
Absolument, et c'est un vrai travail, un travail très important.
Effectivement, il faut être méticuleux. Au programme ce soir, Jean-Pierre, un maire qui vous parle, j'allais dire un maire nouveau, mais que l'on connaît sur le territoire.
Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on peut changer de maire tous les jours, mais il y a des communes qui sont quand même importantes dans notre région et dans nos départements, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'informations régulières à faire passer, et c'est le cas de la ville de Sedan, Sedan qui est la deuxième ville du département des Ardennes.
Et nous serons donc avec Didier Herbizon d'ici quelques minutes. On parlera également constructeur de véhicules électriques dans la question d'économie avec Gérard-Marie-Henri d'ici quelques secondes. Là, il attend son tour, évidemment. Nous serons aussi avec Hervé Chatriot, auteur de Reims la Magnifique, un ouvrage qui concerne la gare de Reims.
Absolument, la gare de Reims qui a été créée en 1854. Ce fut une véritable révolution pour la ville de Reims qui n'a pas eu la gare avant Épernay, parce que Épernay a coiffé sur le poteau Reims. Épernay était la première gare de la région.
On critique souvent l'Europe, mais cette Europe est-elle critiquée à juste titre? C'est la question, ou les questions plutôt, que l'on posera à Jean-Marie Beaupuis, qui était anciennement député européen. Et puis on ira faire quelques rencontres, notamment avec Arthur, qui parlera de l'engagement associatif chez les jeunes. Et puis avec Pascal Jean, qui est le président de l'association Millésime 08. On prend un petit peu d'avance pour donner rendez-vous le week-end du 4 et 5 mai. C'est samedi et dimanche, du côté de Bazeilles, pour la 20e édition du Salon des Vins de Bazeilles, qu'on appelait à l'époque le Salon des Vins de Givonne, mais depuis 2019, eh bien cet événement a été délocalisé de Givonne à Bazeilles pour avoir plus d'espace. Voilà pour le programme de ce jeudi soir, Jean-Pierre.
Oui, alors je ne sais pas si on a le temps en une minute de rappeler que la semaine prochaine, c'est la semaine des vocations. Ça veut dire que Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Véteux vont sillonner le diocèse. Tous les jours, ils vont marcher, ils vont se donner rendez-vous le matin et le soir sur l'antenne, on en parlera. Et c'est un grand rendez-vous et on en reparlera d'ailleurs demain matin en direct avec Mgr Étienne Véteux.
Et à 18h13, on commence par la chronique de ce jeudi. La question d'économie avec Gérard-Marie-Henri. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et on va parler d'une belle entreprise, ou en tout cas d'une entreprise qui pendant un moment perçait sur le marché, comme on disait. Cette entreprise, c'est Tesla, mais aujourd'hui elle semble en difficulté. Que s'est-il passé entre le moment où Tesla, on avait tous Cosmola à la bouche en pensant à Elon Musk, et Tesla aujourd'hui qui est en difficulté?
Donc Tesla est effectivement en difficulté, vend un peu moins de voitures, est amené à licencier un certain nombre, à peu près 10% de son effectif mondial. Il a fait des réductions de prix de ses modèles, etc. Mais on a effectivement une certaine désaffection des consommateurs pour les voitures électriques. C'est-à-dire les personnes qui en ont acheté étaient vraiment absolument accrochées, mais derrière le grand lot de consommateurs ne suit pas vraiment.
Bon, on imagine que Tesla a quand même des raisons d'expliquer cela, parce que c'est quand même une marque de luxe dans la voiture électrique. Généralement, on se dit dans le monde du luxe, c'est là où ça suit, où les gens ont les moyens d'investir. Si eux-mêmes perdent des acheteurs, c'est quand même qu'on tire un petit peu la sonnette d'alarme, Gérard-Marie.
Oui, alors donc on a effectivement, parce que on attendait que Tesla fasse une voiture à 25 000 euros, c'est ce qu'il avait prévu pour l'année prochaine. En fait, il a annoncé qu'il ne la ferait pas, et donc on a des tarifs qui sont, malgré les réductions de coûts, assez élevés. Et puis ce qui est intéressant, c'est de savoir que les difficultés de Tesla n'aident pas les concurrents qui sont sur le même créneau. Enfin, on a toute une série de start-up qui produisent uniquement des voitures électriques, la différence de voitures comme Peugeot, Peugeot, Renault font les deux types de voitures, des voitures à moteur thermique, des voitures à moteur électrique. Tandis qu'il y a toute une série de start-up qui se l'ont lancé il y a quelques années, qui ont voulu imiter Tesla en ne faisant que des voitures électriques. Et on pourrait se dire, bah, comme Tesla va mal, ça va leur ouvrir une porte.
Et en fait, c'est ce que l'on se dit, mais en fait, non.
Et en fait, non.
La porte reste fermée.
Ben, la porte n'est pas vraiment fermée, mais on s'aperçoit que pour se lancer dans ce créneau, il faut quand même arriver à vendre, pour être rentable, à peu près 500 000 voitures par an. Et les constructeurs qui sont concurrents de Tesla, par exemple sur le marché américain, on a deux firmes intéressantes qui font des voitures assez jolies. Il y a d'un côté Lucid et de l'autre côté Rivian. Eh bien, elles produisent quelques milliers de voitures par an. Ça veut dire qu'elles perdent par voiture des dizaines de milliers de dollars. Elles brûlent de l'argent terriblement. Et évidemment, les investisseurs qui avaient mis au paquet pas mal d'argent au début derrière ces nouveaux constructeurs, en se disant ça va être une histoire à la Tesla, formidable, bah, ils renaclent un peu à continuer à financer.
Mais à un moment donné, Gérard-Marie Henry, ces constructeurs qui investissent à perte, ils vont en avoir marre de perdre de l'argent. Moi, demain, je suis chef d'entreprise. Tout ce que je souhaite, c'est gagner de l'argent. Ce n'est
tout
pas
à
en
fait.
Perdre.
Et donc, on a déjà du côté de ces constructeurs-là. Alors, on en a déjà qui ont mis la clé sous le paillasson. On peut parler de Fisker, par exemple, qui faisait des assez jolies voitures aussi. Il les faisait faire. En fait, il faisait juste la partie logicielle et il faisait construire ailleurs. Enfin, on a Winfast, un constructeur vietnamien. Tout ça sont des entreprises qui sont déjà moribondes ou qui vont arrêter de produire. Et donc, on n'a pas du tout de concurrents du côté occidental, on pourrait dire, qui profitent des difficultés de Tesla.
Oui, parce que Tesla, pour revenir un petit peu sur leurs difficultés, c'est une chute des actions de Tesla en bourse environ de 33%.
Tout à fait.
Ça, c'est énorme, 33% de pertes en bourse.
C'est tout à fait énorme. Oui, on a vraiment un recul assez extraordinaire. Mais alors, si on regardait les autres constructeurs dont je parlais il y a un instant, comme Rivian ou comme Lucid, la chute de leur capitalisation est encore plus extraordinaire. C'était des constructeurs qui n'avaient pratiquement construit aucune voiture et qui valaient plus que des énormes constructeurs comme Ford, comme Stellantis, etc. Puis d'un seul coup, ils sont revenus pratiquement à zéro. Et donc, on a la question, c'est qui va subsister ? Et là, la réponse, c'est sans doute les entreprises chinoises.
Pourquoi plus les entreprises chinoises que d'autres entreprises ?
Alors, la première raison, c'est que ces entreprises chinoises, elles continuent à faire les deux types de véhicules. Donc, on a le géant BYD, dont on a déjà parlé, BYD, qui est maintenant capable de produire plus de voitures électriques que Tesla, mais il ne fait pas que ça. Donc, même s'il perd un peu d'argent sur ses voitures électriques, il rattrape sur le reste. Donc, tous ces constructeurs nouveaux chinois jouent sur les deux tableaux. Et ils ont l'avantage d'avoir chez eux, en Chine, donc des constructeurs de batteries qui leur font des tarifs effectivement préférentiels. Or, la batterie dans une voiture électrique, c'est entre le tiers et presque la moitié du prix de la voiture. Si vous l'avez au rabais, bah, vous avez l'avantage par rapport à vos concurrents.
Gérard-Marie Henry, produire des voitures, oui. Les vendre peu cher, oui. Mais ces voitures sont-elles fiables ?
Bah, écoutez, ils ont fait d'énormes progrès. Hein. Ils ont fait d'énormes progrès en termes de logiciels. Ils ont en fait racheté des constructeurs étrangers. Pensez à MG, qui a racheté nos constructeurs anglais. Ils font appel à des designers qui sont occidentaux. Donc, ils ont racketté les gens qui travaillaient chez BM, chez Mercedes, chez Peugeot, etc., qui leur construisent les voitures. C'est pour ça que leurs voitures ont une tête assez intéressante. Et ils ont donc des coûts qui sont faibles et par rapport à leurs concurrents. Donc, ils peuvent proposer des modèles qui sont équivalents, mais moins chers que les modèles occidentaux. Ça, c'est la première raison pour laquelle les entreprises chinoises risquent de rester sur le secteur.
Et justement, sur le marché des entreprises chinoises, il y a même des entreprises qui, elles, tentent de se développer. Elles pensent que c'est le bon moment pour porter l'attaque.
Alors, et c'est là où on a des géants qui se mettent sur ce secteur. On a par exemple la société qui fait des téléphones qui s'appelle Xiaomi, qui vient de démarrer, donc en liaison avec un gros constructeur chinois, qui vient de démarrer une série de voitures électriques qui paraît tout à fait intéressante. On a Alibaba qui fait la même chose. On a un autre constructeur assez intéressant, c'est celui qui fait le montage des iPhones. Donc c'est un constructeur taïwanais qui s'appelle Foxconn, qui vient aussi de lancer ses premières voitures électriques. Donc là, on a une nouvelle équipe d'entreprises productrices de voitures électriques. C'est plus du tout des constructeurs traditionnels, c'est plutôt des entreprises high-tech qui viennent sur le secteur et qui se marient avec un constructeur traditionnel et qui vont avoir des modèles qui sont relativement abordables et donc qui vont faire une concurrence assez extraordinaire à Tesla et aux autres startups dont on parlait.
On parlait justement de Xiaomi, d'Alibaba. Pour voir quelques illustrations, on peut passer par votre blog, gerardmariehenry.com. C'est vrai que nous, on a les documents là sous les yeux au moment où l'on parle. C'est des voitures, vous me passerez l'expression, qui ont de la gueule quand même.
Absolument,
en plus.
Absolument.
C'est pas des voitures comme ça.
Ah non.
C'est pas la petite Citroën C1 qu'on peut avoir, ou la Renault Zoé.
Quand j'ai fait l'article sur le blog, j'ai été absolument surpris de voir la tête de ces nouvelles voitures chinoises qui sont absolument assez intéressantes.
Bon, évidemment, on connaît quand même Tesla qui est en difficulté. On connaît un petit peu le profil d'Elon Musk, son patron. Lui, on imagine que face à tout cela, il essaie quand même de réagir et qu'il ne reste pas les bras croisés.
Tout à fait. Mais il a quand même, par rapport à ses concurrents qui viennent d'arriver, il a quand même un certain nombre de difficultés qu'il va avoir du mal à surmonter. Par exemple, c'est pas lui qui fait ses batteries. Il commence à démarrer un cycle de construction de batteries spécifique pour lui, mais en fait, il n'y est pas encore. Et donc, tout ça lui fait des coûts qui sont un peu élevés. Et donc, c'est pour ça qu'il vient de licencier 10% de son personnel.
Et en tant que bon PDG, il doit de temps en temps revoir la réorganisation de son entreprise. C'est ce qu'il disait sur son compte X. Et c'est une façon gentille de dire que finalement, il y a certains salariés qui vont devoir quitter leur poste et qui vont certainement être licenciés s'ils ne partent pas de même.
Qui sont licenciés. En fait, là, 10%, vous vous rendez compte, c'est énorme. Il avait à peu près 250 000 salariés dans le monde. Et il y en a 25 000 qui viennent de recevoir et qui arrêtent automatiquement. On est dans le système américain assez sévère, c'est-à-dire on vous dit vous partez, vous virez votre...
Du jour au lendemain, il n'y a plus de bureau, plus de poste de travail, tout est fini.
Et il reconnaît, alors il vient de reconnaître, ça c'était une décision qu'il a prise il y a 15 jours, il vient de reconnaître que les primes de licenciement qu'il avait versées étaient un petit peu légères, il va peut-être remettre un petit peu l'argent au pot, mais vous voyez que ça va être quand même très dur pour cette entreprise.
Et est-ce que du côté des entreprises concurrentes, pour terminer Gérard-Marie-Henri, on est un petit peu plus généreux et qu'on arrive de manière, j'allais dire, un peu plus fiable à stabiliser ses effectifs?
Non, enfin là, les entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont mettre la clé sous la porte ou qui ont presque terminé de produire, elles sont amenées elles-mêmes à dégraisser terriblement leurs effectifs et sans tellement faire de cadeaux.
Merci Gérard-Marie-Henri et à très bientôt.
À très bientôt Alexis.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Ce jeudi, on va dans les Ardennes retrouver un maire qui nous parle. Jean-Pierre, avec qui êtes-vous ?
Et notre maire aujourd'hui est Didier Herbillon, le maire de Sedan. Didier Herbillon, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors, Sedan, on avait fêté le château, c'était extraordinaire, le plus grand d'Europe, mais aussi primé. On entend parler maintenant d'un marché. Vous êtes, j'allais dire, en ce moment sur la brèche à Sedan.
Oui, bah c'est plutôt bien. Vous savez qu'on a lancé notre marché l'année dernière, au mois de juin l'année dernière, on l'a inauguré. Le nouveau marché couvert, on a resitué aussi le marché dans le centre-ville. Et de ce fait, aujourd'hui, le succès est là, vraiment, à la fois esthétique, parce que c'est vraiment un joli marché, je crois, et puis populaire, puisqu'on accueille tous les samedis entre 4 et 5 000 personnes sur le centre-ville de Sedan grâce à ce marché.
Et puis ça correspond aussi à ce qu'attendent aussi les Françaises et les Français en général, et les Ardennaises et les Ardennais en particulier, mais qui ont ça chevillé au corps, c'est la proximité, la rencontre avec les gens dans un monde un peu chloroformé.
Ben oui, tout à fait d'accord avec vous. Sur le marché, les gens rencontrent leurs producteurs, celles et ceux qui produisent fruits, légumes, viande, qui finalement sont dans leur quotidien, puisque à quelques kilomètres, voire à quelques centaines de mètres parfois, pour les maraîchers du Fonds de Givonne par exemple. Donc c'est un moment de grande convivialité, les terrasses sont pleines, les gens échangent, prennent un pot ensemble, et quand en plus c'est sous le soleil, ben ma foi, la ville est belle, la ville et les gens sont heureux. Donc moi, ça me va très bien.
Dans un tout autre domaine, Sedan revient de loin, c'est en football. J'ai l'impression qu'il est en train de remonter quand même, Sedan. Marche par marche, mais c'est pas trop mal.
Oui, c'est pas trop mal. La montée est quasiment acquise dès cette année. C'est une équipe de jeunes qui sont enthousiastes, qui sont finalement bénévoles, pratiquement. Ils ne sont quasiment pas défrayés. Donc tout cela, eh bien, ce sont les valeurs du CCSA, un petit peu les valeurs du football ouvrier tel qu'il est né ici dans notre cité. Et puis on voit bien qu'il y a un engouement, une ferveur. Vous savez, en R3, faire venir entre 1000 et 2000 spectateurs à chaque match, à l'extérieur comme à la maison, c'est quand même unique en France. C'est une ville quand même très particulière et qui est extrêmement attachante pour le football aussi, mais dans beaucoup d'autres sports également.
On a l'impression que Sedan, depuis quelques années déjà, et depuis quelques mois en particulier, tout comme avec Ardennes Métropole, reprennent un petit peu dans un monde d'inquiétude et un peu anesthésié, reprennent un petit peu du poil de la bête. On a l'impression que ça repart un petit peu.
Oui, c'est vrai, hein. On a stabilisé nos populations après presque 50 ans de baisse. Sedan a gagné même 520 habitants ces deux dernières années. Je crois que le fait maintenant de travailler ensemble et de ne plus se regarder en chien de faïence comme ça a été le cas pendant des décennies entre les deux villes principales, le fait aussi d'être entouré par maintenant plus de 50 communes qui travaillent avec nous, ça nous permet de mener des projets structurants, d'agir par exemple sur le développement de l'enseignement supérieur, d'agir par exemple sur le développement économique, et ça profite à tout le territoire. Oui, ça va mieux. Alors, crions pas victoire trop vite, hein, parce que c'est toujours difficile. Le contexte n'est pas très très facile en ce moment. Les collectivités ont des problématiques financières hein, au regard de l'inflation. Mais l'optimisme est un peu de mise aujourd'hui sur notre territoire. Et puis quand on parle de nos villes au niveau national, ça nous fait du bien aussi, ça braque les regards et ça permet de faire venir des investisseurs.
TF1 va parler de vous avec le marché, hein ?
Bien sûr. On va accueillir une équipe pour le tournage et tout ça, ça fait du bien parce que, je vous le disais, les investisseurs arrivent. Par exemple, une des verrues de la ville, c'était l'ancienne sous-préfecture qui était abandonnée carrément hein, depuis maintenant près de 30 ans. Eh bien, ça y est, les travaux ont commencé. Ce sera un très beau restaurant et un très bel hôtel. Le casino aussi est en train de prendre forme. On va aussi avoir un nouveau cinéma. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a une dynamique. Il faut l'accompagner, il faut pas la lâcher. Et puis, il faut pas non plus être trop optimiste, hein, parce que tout ça nécessite un suivi, tout ça nécessite du travail, de pas créer des victoires trop vite, mais en tout état de cause, oui, Sedan, Charleville, les communes de l'agglomération vont mieux.
Et puis un centre-ville qui quand même a changé un peu d'allure, on peut le dire en un mot, Didier Herbillon, parce que ça compte aussi. C'est la vitrine.
Mais c'est ça, mais c'est le cœur en fait. Et quand le cœur bat fort, le reste de la ville bat fort, vous voyez. Aujourd'hui, dès qu'il y a rayon de soleil, les terrasses ont la possibilité de s'installer partout dans le cœur de ville, parce qu'on a créé les espaces pour cela. Et je crois que c'était aussi nécessaire. Hein. Sedan avait oublié un peu la dimension urbanistique. Et c'est dommage parce que c'est le rôle premier d'un maire, je crois, que de faire en sorte d'embellir sa ville. Et on va continuer à le faire. Et puis on va aussi profiter des 600 ans du château fort. Vous savez que cette année, on fête les 600 ans du château. De multiples manifestations vont avoir lieu. La prochaine qui arrive, et qui sera une très grande manifestation, ce sont les fêtes médiévales. Tout ça, là encore, participe seulement à l'animation, mais à l'aura.
On aura bien sûr l'occasion, Didier Herbillon, d'en reparler, bien sûr, sur RCF. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Au revoir.
C'est un plaisir. Merci à vous.
Le 18-19 sur RCF.
18h28 sur RCF en Ardennes, nouvel invité avec Jean-Pierre. Ce soir, Hervé Chatriot de la direction des gares de Champagne-Ardennes vient présenter son dernier ouvrage, Reims la Magnifique, qui parle de la gare de Reims.
Hervé Chatriot, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors vous venez de publier un livre exceptionnel, Reims la Magnifique, à lire à l'Est, le Pythagore édition. Reims la Magnifique. La Magnifique, c'est la gare alors qu'on appelle comme ça.
Oui, semble-t-il. Il semblerait que c'était le nom de la gare de Reims. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu de mes prédécesseurs. Et du coup, j'ai justement cherché à savoir pourquoi Reims la Magnifique.
Alors, c'est vrai que tout le monde dans une ville connaît la gare. Tout le monde passe par la gare. Et pourtant, cette gare a une histoire. Quand le chemin de fer s'est implanté à Reims. Et il était en léger décalage par rapport à Épernay. Comment ça s'est passé? C'était dans les années 1854.
Oui, en fait, ça s'est mal passé pour Reims, hein. Faut bien dire les choses. Et c'est parti par une grande, grande frustration. C'est que la ville de Reims voulait absolument être sur la ligne de chemin de fer de Paris à Strasbourg.
C'est un peu comme l'autoroute ou comme le TGV aujourd'hui. Tout le monde veut avoir son TGV ou sa gare.
Oui, mais c'était vraiment à l'époque malheur à la ville qui ne serait pas reliée au chemin de fer.
Et alors, Reims s'est fait si je suis un peu familier, damer le pion par Épernay.
Exactement, exactement. La vallée de la Marne a été préférée par rapport à un sillon qu'auraient préféré les Rémois qui s'étaient associés à l'époque avec les Messins. Eh ben non, ce sera Épernay, Roi-Sagar avant Reims.
Mais alors Reims a voulu se rattraper. Il y a eu quand même une, oui. J'allais dire un deuxième round.
Oui. Alors, ils sont d'ailleurs bien rattrapés parce que quand on regarde bien un petit peu l'histoire, déjà à l'époque, quand ils avaient négocié ce qu'on appelle un embranchement à partir d'Épernay pour relier Reims, et les Messins avaient négocié la même chose de Nancy jusqu'à Metz. Mais après, Reims, la ville de Reims a attiré le chemin de fer bien plus que les Sparnassiens que pour Épernay, car faut voir que l'étoile ferroviaire de Reims s'écrivait en 9 ans. 9 ans, et ben vous avez eu la ligne Épernay-Reims, la ligne ensuite Ternier-Lens-Reims en 1857, en 1858 vous avez eu la ligne Reims-Rethel-Charleville, 1861 Soissons-Fismes-Reims et 1863 Reims-Caen de Chalon. Le camp militaire de Chalon, Mourmelon.
Mais vous savez tout. Écoutez, Hervé Chatriot, vous savez tout par cœur. Les dates par cœur, les gares par cœur. Vous avez sillonné, bien sûr, les gares de Champagne-Ardenne. Mais alors, l'arrivée du chemin de fer, ça a été, sur le plan économique, commercial et de la ville, un événement exceptionnel.
Exceptionnel, et ils l'ont, je pense, très très bien considéré. D'ailleurs, à l'inauguration du chemin de fer, rien que la fête inaugurale, où Napoléon III est venu à Reims, rien que la fête avait son nom et c'est resté longtemps dans les mémoires des Rémois comme la fête de Reims.
Et alors, justement, il y a eu toute une réflexion pour implanter cette gare de Reims, qui est plus longue que celle d'Épernay. Elle fait plus de 100 mètres.
Oui, effectivement. En fait, c'est même une histoire assez remarquable. C'est que la gare de Reims est bien plus grande qu'elle aurait dû être. Elle devait être de la même longueur que la gare d'Épernay et la gare de Troyes.
70 mètres, 80 mètres.
70 mètres, effectivement.
Et là, elle fait plus de 100 mètres. Et alors, comment elle était construite? Parce que comme c'était un lieu qui allait attirer tout le monde, puisque tout le monde allait aller à la gare, nous, on pense la place d'Erlon et la gare. Or, en fait, et c'est ce que vous dites dans votre livre, la place d'Erlon, elle est légèrement décalée. Elle n'est pas dans l'axe perpendiculaire à la gare, mais il y a une symétrie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer avec d'autres axes?
Oui, en fait, les Rémois voulaient que le spectateur situé sur la place d'Erlon puisse contempler le chemin de fer. Mais la place d'Erlon, elle tombe un peu en oblicité avec les promenades et du coup avec le chemin de fer. Et du coup, c'était assez finalement disgracieux.
Alors, il y a eu l'idée assez exceptionnelle et originale, à partir de la gare, d'avoir un axe un peu à droite, un autre un peu à gauche, mais cet axe à gauche n'existait pas. Donc il y a eu la création d'un boulevard, d'une rue.
Oui, en fait, la place d'Erlon est dans l'axe parfait d'un pavillon de la gare, le pavillon extrême de la gare. Et pour que ça soit élégant, ils ont joué sur la symétrie des axes. Et vous avez un autre axe, le pavillon du buffet, et ben relié en fait à un autre point remarquable qui est l'hôtel de ville, constitue un autre axe de la même, je dirais, même angle que la place d'Erlon.
Ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu la gare qu'on a créé la rue Thiers qui va de la gare à l'hôtel de ville, qui fait le pendant de la place d'Erlon.
Exactement.
Alors si on fait un peu de mathématiques, ça veut dire qu'il y a un angle entre les deux routes et que si on prend la bisectrice, c'est-à-dire qui coupe en deux, on va vers la cathédrale. C'est-à-dire, ça c'est formidable.
Oui, en fait les deux axes se croisent dans un point. D'ailleurs ce point c'était le milieu de la grille d'entrée de la cour voyageur de la gare. Et du milieu du pavillon central vers ce point-là, eh ben, on retombe sur un troisième axe et cet axe-là, effectivement, déjà va donner l'emplacement de Colbert, de la statue Colbert, et on le remarquera qu'on tombe sur la nef de la cathédrale de Reims.
Alors évidemment, Hervé Chatriot, la gare de Reims, c'est un lieu de passage, c'est un lieu d'histoire, parce qu'il s'en est passé des choses, avec les bombardements, la première, la deuxième guerre mondiale, il y a eu bien sûr beaucoup de choses, mais ça fait vivre beaucoup de personnes, il y a le personnel, mais il y a aussi ce qu'il y a sous la gare. Moi, je ne savais pas, mais sous la gare, il y a un champ de tir.
Eh oui, il y a même...
Mais alors, tout le monde ne le sait pas, puis tout le monde... et c'est encore visitable, on peut y aller.
Alors, non seulement il est visitable, mais il est toujours en activité. Le stand de tir de la gare de Reims est en activité depuis plus de 50 ans.
Il est en dessous de la gare. Enfin, il y a un petit escalier, certainement. Je ne vais pas vous demander où on passe, mais c'est officiel. Et il y a un stand de tir en dessous des tickets, quoi, j'allais dire.
Eh ben, sous le hall principal de la gare, là où il y a des milliers de personnes qui y transitent chaque jour, eh ben, sous leurs pas, sur leurs pieds, tout simplement, eh ben, vous avez le stand de tir, un stand de tir à direct.
Écoutez, Hervé Chatrieux, heureusement qu'il n'y a pas des balles perdues, hein. Ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de personnes qui passent dans une gare.
Oui.
En un an, c'est impressionnant. Oui. Alors, les gens ne remarquent pas, mais cette histoire, vous êtes amoureux des trains, des wagons, des locomotives. Alors, il y en a une d'ailleurs qui fait référence à la mère de Pierre-Emmanuel Tétinger, qui était amoureuse de créativité, d'imagination, et elle a voulu qu'il y ait une locomotive dans cette gare un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Ah, vous voulez que je vous raconte l'histoire de Vladimir?
Exactement. De quoi s'agit-il?
En fait, Corinne Deville Tétinger était une artiste et avait une imagination débordante. Et elle aimait beaucoup, en fait, les locomotives, car c'était dans son imaginaire le voyage. D'ailleurs, un de ses enfants dira « Ma mère a voyagé
dans l'Orient Express,
dans le Transsibérien, des dizaines et des dizaines de fois, sans sortir de sa chambre. » Donc elle était dans une imagination débordante.
Il nous reste 15 secondes, ça va très vite. Ça veut dire que la mère de Pierre-Emmanuel Tétinger, elle a suggéré qu'il y ait une locomotive emblématique dans la gare.
Oui, elle a demandé à ce qu'il y ait en fait une locomotive mémoire qui fait référence au dépôt de locomotives de Reims à vapeur.
9 minutes, c'est beaucoup trop court. Ça veut dire qu'on va se retrouver pour une deuxième émission. Merci d'avoir été avec nous, Hervé Chatrieux. Rappelons que vous êtes à la direction des gares de Champagne-Ardenne. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci à vous.
Et merci à vous également, Jean-Pierre. Dans quelques instants, on parle d'Europe.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Parlons d'Europe avec Jean-Marie Beaupuis. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'habitude, c'est vous qui êtes dans la peau de l'intervieweur. Aujourd'hui, vous êtes l'interviewé pour peut-être, j'allais dire, démonter un certain nombre de clichés, en tout cas, parce que c'est vrai que vous avez relevé, à juste titre d'ailleurs, on l'entend souvent, nos auditeurs vont peut-être aussi se retrouver dans certaines de ces idées, de dire que l'Europe est critiquée.
Ah, hélas, souvent, trop souvent, sans doute.
Et il y a une dizaine de points, comme ça, qui chiffonnent un petit peu, qui vous interpellent, sur lesquels on va revenir. Et notamment, on dit parfois, Jean-Marie Beaupuis, que l'Europe, elle s'occupe de tout, mais aussi qu'elle s'occupe de rien. Elle se mêle un peu de ce qui la regarde et de ce qui ne la regarde pas, Jean-Marie Beaupuis.
C'est vrai, c'est faux. D'abord, premièrement, il faut ne jamais oublier que l'Europe agit à partir des traités constitutionnels, c'est-à-dire qu'elle ne peut agir normalement que dans le cadre qui lui est dévolu. De la même manière qu'une commune s'occupe de la voirie communale ou de l'école, l'Europe ne s'occupe que de certains sujets, dont les agriculteurs. Alors, est-ce qu'elle s'occupe de tout? Oui, dans les domaines qui lui sont dévolus. Est-ce qu'elle ne s'occupe pas des autres domaines? En principe, elle ne doit pas s'en occuper, sauf lorsqu'il y a crise.
Alors, quels sont justement les problèmes que l'Europe doit gérer? Parce que l'Europe, c'est aussi les problèmes quotidiens, finalement, que vous vouliez mentionner, Jean-Marie Beaupuis.
Ah ben, dans le cadre de ses prérogatives, évidemment, l'Europe s'occupe du quotidien. Elle s'occupe du quotidien alimentaire, dans la mesure où, justement, dans le domaine agricole, le domaine de l'alimentation, c'est à l'Europe de définir les principales règles. Et dans d'autres domaines, comme par exemple Erasmus, c'est l'Europe, évidemment, qui intervient, mais on n'y pense pas souvent. C'est dans le domaine social, par exemple, où l'Europe intervient pour nos citoyens qui sont dans la difficulté, tout ordre de difficulté. Ce sont des millions et des millions d'euros qui sont déversés sur le Grand Est à ce niveau-là.
Justement, puisque vous nous ramenez en local, on sait par exemple que par rapport à la situation des agriculteurs, de nos vignerons, parfois cette Europe, on la trouve quand même un petit peu tatillonne, Jean-Marie Beaupuis, il faut bien le dire.
Ah oui, mais c'est tout à fait exact, elle est tatillonne pour une bonne raison, c'est que là encore, on demande tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'Europe, pas plus que l'État d'ailleurs, vienne nous embêter dans nos libertés individuelles, mais en même temps, on demande que l'Europe nous protège parce qu'on veut que les aliments soient de bonne qualité, on veut que les revenus soient maintenus pour les personnes en difficulté, on veut... Donc en fait, c'est tout et son contraire. Et lorsque vous êtes au niveau européen, au niveau d'un gouvernement qui a évidemment ses fonctionnaires à Bruxelles, au niveau des députés européens, eh bien il faut tricoter, si j'ose l'expression, entre ces contraires. C'est-à-dire, il nous faut pas trop de normes pour les agriculteurs, mais en même temps, il faut s'occuper de la sécurité alimentaire pour chaque consommateur.
Jean-Marie Beaupuis, vous qui êtes un ancien député européen qui nous parlait d'Europe au quotidien ou en tout cas de manière hebdomadaire sur l'antenne de RCF, l'Europe, vous venez de le dire, elle essaye de s'occuper un petit peu de certains problèmes du quotidien auprès de ses citoyens. On a essayé de décortiquer cette idée reçue que cette Europe s'occupe de tout et de rien. On est quand même en démocratie. Et on a l'impression que finalement, cette Europe, elle n'est pas démocratique, qu'elle a envie parfois d'être un peu dictatoriale, d'imposer ses idées aux États. Alors ça, c'est vrai ou c'est une idée reçue ?
Elle n'est pas dictatoriale, elle assume ses responsabilités.
Je ne comprends pas volontairement, Jean-Marie Beaupuis.
Bien sûr.
Je tiens à le dire.
Bien sûr, mais de la même manière qu'un maire doit assumer ses fonctions, un parent, père ou mère, doit assumer ses fonctions, l'Europe assume ses fonctions. Donc elle n'est pas dictatoriale en ce sens-là, elle assume ses fonctions. Par contre, quand vous posez la question de démocratie, il faut ne jamais oublier que l'Europe est quand même la plus grande démocratie au monde, avec deux conciliations en quelque sorte. Une conciliation au niveau des États, puisque dans le Conseil, ce sont les 27 chefs d'État ou les 27 ministres compétents qui se retrouvent à Bruxelles pour négocier ensemble les questions de santé, d'agriculture, etc., et qu'au Parlement européen, les représentants des citoyens, tout parti politique confondu, tout État confondu, se retrouvent pour traiter, négocier de chaque texte. Donc il n'y a pas plus démocratique que l'Europe à ce point de vue-là.
Mais j'allais dire, Jean-Marie Beaupuis, comment l'Europe fait pour s'y retrouver au milieu de tous ces États pour faire un consensus? C'est un petit peu une question subsidiaire, mais c'est vrai que à la fois, quelque part, elle doit trouver quelque chose qui répond aux attentes bien de nous, les Français,
oui,
tout simplement,
oui, oui,
mais aussi nos voisins belges, nos voisins espagnols, des Italiens et puis d'autres pays qui sont un peu plus éloignés. Alors comment elle fait l'Europe pour essayer de trouver une formule qui convient à tout le monde? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une démocratie commune à tous les États de l'Europe?
Eh bien, la preuve est faite depuis 70 ans, effectivement. Mais là, j'utilisais le mot tricotage tout à l'heure. C'est vrai qu'à l'intérieur des commissions compétentes, que ce soit la commission des affaires internationales, que ce soit la commission sociale, que ce soit la commission de l'emploi, que ce soit la commission du commerce international, etc., eh bien, on trouve d'un côté les députés, de l'autre côté les ministres dans le Conseil, qui doivent, eh bien, discuter ensemble et arriver à un accord. Et c'est ça qui était démocratiquement impressionnant. C'est que non seulement les ministres concernés des 27 États finissent en définitive par se mettre d'accord sur un texte, mais qu'en plus, lorsqu'ils doivent se confronter aux députés qui représentent les peuples, ils trouvent à nouveau un accord. C'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas un accord finalement.
Vous nous l'avez dit, Jean-Marie Beaupuis, ça fait 70 ans quelque part qu'on a cette grande démocratie, donc à l'échelle de l'Europe, on l'a bien compris. 70 ans, ça paraît loin. Et j'ai envie de vous poser cette question, de fait, est-ce que l'Europe est loin ?
L'Europe est loin et proche. C'est vrai que toutes ces décisions dont je viens de parler se prennent à Strasbourg et à Bruxelles, sont complexes, parce qu'il est bien évident, pour se mettre d'accord sur un texte, que ce soit sur les migrations, je répète, sur la sécurité ou autre, c'est très, très, très complexe. Donc, de ce point de vue-là, l'Europe est loin. Mais l'Europe est proche de nous dans la mesure où, au niveau de ses applications, ce sont les États et, en France, les conseils régionaux, donc pour nous le Grand Est, qui est chargé de mettre en œuvre les politiques européennes. Donc il n'y a pas de fonctionnaires européens qui sont sur le terrain, ce sont là aux fonctionnaires de l'État et des conseils régionaux de mettre en œuvre les décisions et les subventions européennes.
Et justement, ces décisions, ces subventions, est-ce qu'elles correspondent au monde actuel ou est-ce que là aussi, cette Europe, elle vous paraît loin et quelque part un petit peu bloquée dans le temps, Jean-Marie Beaupuis ?
Ah, pas du tout bloquée dans le temps, non. Non, non, il y a des remontées permanentes des usagers, il y a forcément des mécontentements parce que, qu'on soit au niveau de l'Europe, d'une commune, d'une entreprise, d'une famille, c'est un progrès permanent qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a des bavures, il y a des erreurs, eh ben elles sont corrigées, mais effectivement, l'Europe, c'est pas parce qu'elle est loin, c'est parce qu'il y a des imperfections et que nous devons les corriger. Aucun monde ne sera jamais parfait, semble-t-il.
L'Europe, aujourd'hui, quelle est sa position si on la regarde d'un statut géographique, si on la regarde dans un contexte géopolitique avec un monde en crise? Quelle est cette position de l'Europe aujourd'hui? Est-ce qu'elle est faible dans le monde actuel?
Faible et forte, c'est un peu comme tout être humain, on a des points forts et des points faibles.
Alors, quelles sont ses faiblesses à cette Europe et quelles sont ses forces également?
Ben, les forces, c'est que l'Europe reste très attractive quand elle est vue de l'extérieur, parce que c'est quand même un îlot de paix, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire actuellement pour de nombreux pays et de nombreux citoyens dans le monde. C'est un îlot de progrès, c'est un îlot où la moyenne d'âge, l'espérance de vie est la plus élevée, c'est un îlot où il y a effectivement des loisirs, du tourisme, etc. Donc ce sont des points forts, et puis les points forts, c'est des points de vue économiques, évidemment sa puissance économique avec 450 millions de consommateurs citoyens. Alors les points faibles, évidemment, c'est la défense, c'est une organisation diplomatique internationale qui n'est pas vraiment unitaire pour l'instant, donc il y a des points faibles. Mais quand vous regardez, parce que les forces et les faiblesses de l'Europe doivent être mis en regard des forces et des faiblesses de la Chine, par exemple, ou des États-Unis, ils ont leurs propres faiblesses qui, justement, nous renforcent, nous, vis-à-vis d'eux.
Jean-Marie Beaupuis, au moment où l'on parle de cette Europe en avril 2024, on peut affirmer que l'Europe est en crise ?
Moi, je ne pense pas. Nous sommes face à des crises, dont nos propres crises internes, bien sûr. Mais les principales crises ne sont pas dans l'Europe. Elles sont aux portes de l'Europe, on le sait, au Moyen-Orient, en Ukraine, dans l'Indo-Pacifique. Et donc, d'où la nécessité aujourd'hui, autant sinon plus qu'hier, d'être unis justement dans notre diversité.
Eh bien justement, on y reviendra parce que je vous parlais des crises. Est-ce qu'elles sont utiles malgré tout, même si elles sont aux portes de l'Europe, pour que nous, en tant qu'institutions européennes, ça nous permette d'avancer ?
Oui, les crises malheureusement sont utiles parce qu'elles nous obligent à nous sortir du quotidien, elles nous obligent à nous sortir de nos habitudes. C'est triste à dire, mais c'est bien comme cela, c'est vrai dans tous les domaines. Et les crises que nous avons eues, qu'elles soient financières en 2008, constitutionnel en 2005, le Covid en 2020, l'Ukraine maintenant, eh bien c'est l'occasion pour l'Europe de franchir de nouvelles étapes. Ce fut le cas dans le passé, c'est le cas aujourd'hui et ce sera encore le cas demain.
Et effectivement, vous en parliez il y a quelques secondes et je pense que ça sera beau pour conclure. Il y a cette devise de l'Europe, unie dans la diversité. Mais comme dans cette émission, Jean-Marie Beaupuis, on a décidé de vous provoquer, on va vous provoquer jusqu'au bout. Unie dans la diversité, est-ce que c'est une réalité lorsque l'on regarde l'Europe ou est-ce que quand même il y a des petites contradictions ?
Ah ben, des contradictions, il y en a plein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on arrive à dominer ces contradictions entre le Nord et le Sud, l'Ouest et l'Ouest, les pauvres et les riches, et dans tous les domaines, que ce soit le climat, la biodiversité, l'agriculture, etc., la pêche et j'en passe, pour réussir à rester unis. C'est ça, en quelque sorte, je dirais pas le mot miracle européen, mais ce qui est remarquable et qu'il nous faut conserver. Ce sera l'un des principaux enjeux, l'une des batailles sans doute entre les listes le 9 juin prochain. C'est quelles sont les listes et les candidats qui seront les plus à même de maintenir cette diversité dans l'unité ?
Unis dans la diversité, la devise de l'Europe pour conclure. Merci Jean-Marie Beaupuis, vous avez donné un rendez-vous, on le rappelle à nos auditeurs, évidemment, le 9 juin pour les élections européennes. En tout cas, en France, c'est le 9 juin, parce que dans certains pays, c'est tout au long...
La veille, oui.
C'est presque tout au long du week-end, voilà, selon les pays. Mais en France, on votera bien le 9 juin. Merci Jean-Marie Beaupuis d'être venu nous parler d'Europe. Et on vous dit à très bientôt sur RCF.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous désormais, on parle vie associative dans Paroles de Jeunes avec Arthur qui s'entretient avec Jeanne Boudre.
Bonjour et bienvenue dans Paroles de Jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Arthur pour parler de la vie associative. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que tu as commencé à rejoindre des collectifs ?
J'ai rejoint des collectifs suite à mon envie de m'engager dans la lutte pour le climat. Alors, c'est pratique parce que c'est des collectifs qui sont déjà créés, donc il y a déjà plein de gens, et donc on s'y sent très vite chez soi. Ça a un côté convivial.
Quelle est la différence entre une association et un collectif ?
Un collectif, ça présente certains avantages comparé à une association qui, elle, est créée et a une valeur juridique, parce qu'on n'a pas un collectif. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dissous, mais néanmoins, on ne peut pas mener d'action en justice et on est assez inexistant en termes de loi.
Quelles sont les actions que vous menez en tant que collectif ?
Moi, je suis membre du collectif Stop Total et des soulèvements de la Terre. Donc, au collectif Stop Total, on fait des actions, pour le coup, légales et déclarées, qui ne présentent aucun risque juridique. Donc, on fait des actions pour ternir l'image de Total Energy, notamment en tapant sur ses financeurs, donc ses premiers financeurs, le Crédit Agricole et Société Générale. Donc, on mène des actions auprès d'eux pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de financer Total Energy. Et on fait aussi des actions contre Total Energy, notamment tout ce qui va sponsoriser. Par exemple, on a fait une action contre Schneider Electric, un des constructeurs de l'oléoduc géant que veut faire Total en Ouganda. Ils étaient un sponsor du Marathon de Paris, donc on a fait une action contre eux, justement pour sensibiliser aussi le grand public de ces enjeux et de ce que fait Total Energy, qui jusqu'ici a une très bonne image. Je suis aussi membre du collectif du Marais, c'est un collectif qu'on a centré autour d'Épernay, qui lutte contre la centrale à enrobée de l'écopôle de Montlon, qui n'est pas encore construite et qui n'a pas encore été validée par le préfet. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de militer auprès du préfet et des élus locaux, afin que cette centrale, elle soit non seulement interdite, mais aussi que cette écopôle, qui n'a d'écho que le nom, soit tout simplement fermée, parce qu'il présente d'énormes dangers, à la fois pour l'environnement, puisqu'il faut absolument cesser de bétonner les terres, mais aussi pour la santé, puisqu'il rejette des particules qui sont cancérigènes, notamment pour les enfants qui y sont beaucoup plus sensibles.
En quoi est-ce que tes engagements peuvent être compliqués à conjuguer avec tes études ?
Alors c'est assez compliqué parce que tout simplement c'est des choses qui sont assez prenantes en termes de temps, que ça soit pour organiser les actions mais aussi gérer tout ce qu'il y a derrière, la logistique, la communication et puis les manifestations elles-mêmes qui peuvent être dans toute la France. On aime le faire, néanmoins ça peut prendre du temps et c'est du temps qu'on consacre pas à la fois à nos études mais aussi à notre famille et à des choses qu'on pourrait faire pour soi-même. On fait certains sacrifices mais on sait que ça en vaut la peine.
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être dans un collectif ?
Il y a vraiment un côté d'entraide et de soutien général. On peut faire énormément d'actions, mais pas tout seul. On se sent pas isolé. C'est des choses qu'on fait avec plein de gens, avec qui au final on s'entend très bien, ça fait des amis. Et puis en même temps, il y a un côté porteur d'espoir de faire des actions pour la préservation de l'environnement. Donc on se retrouve tous autour d'objectifs communs et d'envie de partager ça.
Merci Arthur pour ce témoignage au micro de Jeanne Boudre dans Parole de Jeune. Sans transition, changement d'invité. Avec nous par téléphone, on retrouve Pascal Jean, président de l'association Millésime 08. Pascal Jean, bonjour.
Bonjour Maxime.
Et c'est toujours un petit peu le marronnier à cette période de l'année, mais lorsque vous êtes avec nous, c'est pour nous présenter évidemment le Salon des Vins qui cette année fête sa 20e édition. Il est organisé le samedi 4 et dimanche 5 mai. Le rendez-vous, c'est à Bazeille. Cette édition 2024, elle va être exceptionnelle, Pascal Jean.
Bah, disons qu'on va essayer naturellement, le but c'est que ça soit exceptionnel, hein. Donc on a 30 vignerons, on a des stands terroirs, on a pas mal de choses qui viennent en complément naturellement de ce salon, notamment des ateliers culinaires et sommeries qui seront animés comme depuis 2019 par le lycée hôtelier de Bazeille, donc un partenaire légitime reconnu pour son excellence, une animation complémentaire naturelle au monde du vin. On aura aussi naturellement, comme les années précédentes, un atelier œnologie, animé par Thomas, qui est membre de l'association, mais qui est maintenant œnologue de profession. Et puis, bon, des bars à huîtres, et puis des choses pour marquer l'événement, donc des lots à gagner, des bouteilles à gagner, à l'entrée, comme sur le stand de Thomas. Hein, voilà.
Effectivement, ça annonce quand même une très belle édition pour cette année 2024. C'est vrai que fêter sa 20e bougie pour ce Salon des Vins, lorsque vous avez créé cette initiative, Pascal Jean, avec l'association Millésime 08, c'était en 2003, peut-être qu'on ne se projetait pas 20 ans après, ici, avec un salon des vins encore plus grand, avec plus d'animation. Le projet n'était pas forcément celui que l'on connaît aujourd'hui.
Non, bien sûr, on a évolué entre 2003 et puis maintenant 2024, effectivement. En même temps, on a changé de lieu. Au départ, c'était comme le salon des vins de Givonne, hein, qui reste toujours dans la mémoire des gens, le salon des vins de Givonne. Et bon, pour plus de confort, on a migré sur Bazeille, Bazeille qui nous a ouvert les bras, une commune qui nous a ouvert les bras, et qui nous a proposé cette salle de Montvillers. Depuis 2019, c'est vrai qu'on est sur un endroit qui nous va bien, quoi.
Effectivement, alors ce salon des vins installé à Bazeille, qu'est-ce qui change par rapport à Givonne, par rapport à ses origines du salon, pour les gens qui n'y seraient pas encore allés dans cette nouvelle version qui existe maintenant depuis quelques années tout de même, Pascal Jean?
Bah, disons que oui, effectivement, c'est une salle omnisport, donc c'est du 1200 m². On a commencé sur Givonne, on avait 600 ou 700 m². Donc on imagine bien qu'effectivement, sur une surface de cet ordre-là, on peut maintenant encore recevoir quelques vignerons supplémentaires. On peut aussi apporter des ateliers autres qu'autour du vin. On peut apporter naturellement d'autres choses. On a encore la possibilité de créer des choses et d'apporter des vignerons supplémentaires. Voilà.
Et justement, si l'on parle un petit peu des vignerons qui seront présents pour nos auditeurs, notamment dans les Ardennes et même certainement ceux qui font la route depuis Reims, parce que ce salon, il a quand même pris une dimension régionale et même presque européenne avec des visiteurs belges, luxembourgeois, des fois qui nous rejoignent à chaque édition. Pascal Jean, c'est vrai que cette édition, les vignerons, ils viennent là aussi du tout le territoire, c'est tout le vignoble français qui est représenté à Bazeille le temps d'un week-end.
Complètement. Effectivement, toutes les régions sont présentées. On a naturellement des AOC qui nous manquent. Hein. Mais pour cela, bon, on est toujours à la recherche des opportunités pour trouver d'autres vignerons. Notre mot d'ordre depuis le début, on n'a pas changé. C'est-à-dire que on n'a pas de doublon sur notre salon. Si on voit d'autres salons aux alentours, il y a plusieurs AOC identiques. Nous, il n'y a pas de doublon, donc vous n'avez pas deux AOC identiques sur notre salon.
On parlait du prestige de cette édition 2024 hein, pour le 20e Salon des Vins de l'association Millésime 08. Avec vous, Pascal Jean, c'est vrai que parmi toute l'organisation, il y aura aussi un parrain qui a été nommé cette année, qui n'est autre que votre fils. Hein, les gens, évidemment, le savent dans l'association et même dans les Ardennes. Martin Jean, qui est chef sommelier du domaine Les Crayères. Là aussi, ça permet quelque part de boucler la boucle par rapport à l'histoire de ce parrain, avec le lycée de Bazeille qui est présent sur le salon, avec les vignerons qui sont là et Martin Jean qui est dans les métiers de bouche. Donc quelque part, c'est toute une belle histoire. Ce salon, c'est aussi un petit peu finalement une histoire familiale.
Effectivement, oui, c'est un plaisir qu'il nous rend par sa présence, parce que bon, c'est vrai que de par son travail, forcément, il est très occupé. Donc il nous fait le plaisir cette année d'être effectivement l'invité d'honneur et donc le parrain de cette 20e édition. Et c'est vrai que bon, tout le monde est heureux de pouvoir le recevoir et puis partager avec lui ces différents moments, quoi. Donc voilà, je pense qu'effectivement, ça va être une belle édition, ouais, avec un bel invité.
Et puis vous le disiez aussi en début d'émission, Pascal Jean, c'est qu'il y a plusieurs animations, évidemment, autour des vignerons, avec le lycée de Bazeille qui est présent, avec des métiers de bouche, avec le bar à huîtres, donc la présence de Martin Jean, mais aussi des membres de l'association Millésime 08, avec aussi votre œnologue Thomas, que vous mentionniez tout à l'heure. Il y a cette possibilité d'accompagner chacun des visiteurs et de proposer des accords mets et vins. Ça veut dire, lorsque les visiteurs vont venir déguster les vins, mais aussi certainement, et on l'espère pour les vignerons, acheter ces vins-là, ça veut dire qu'on va leur dire, vous pouvez nous l'acheter parce que vous allez le prendre à l'apéritif, plutôt au dessert, plutôt avec le plat, et leur proposer des choses qui s'accordent bien ensemble.
Bien sûr, le but de cet atelier culinaire et sommellerie, c'est une approche différente de ce qu'on peut avoir sur un salon des vins lambda. C'est un peu notre marque de fabrique aussi, maintenant, depuis quelques années, depuis 2016 ou 2017. D'ailleurs, Martin était venu à l'époque, il y a quelques années maintenant, effectivement, animer ce stand œnologie, hein, donc il faisait aussi les accords mets et vins. Donc maintenant, bah, c'est devenu naturellement un professionnel, donc il va apporter aussi son expertise sur l'atelier du lycée hôtelier, qui aura lieu sur ces deux jours, effectivement. Et puis en même temps, comme vous dites, hein, c'est un retour aux sources. Et donc, on est tous heureux, naturellement, au lycée hôtelier de Bazeille, les professeurs et les élèves, de pouvoir travailler en synergie avec lui et puis avec, naturellement, nos vignerons.
Ce 20e Salon des Vins, c'est un très bel anniversaire. Les vignerons qui viennent, évidemment, vous essayez aussi de renouveler les différents vignerons qui peuvent venir, mais il y a aussi les fidèles. Et surtout, ceux qui viennent cette année en 2024, pour ce très bel anniversaire, ils vont, quelque part, on peut le dire, jouer le jeu et proposer des remises assez exceptionnelles, ce genre de choses.
C'est tout à fait ça. Lors de la 10e, déjà, on avait sollicité nos différents vignerons. En même temps, remercier un peu leur clientèle. Donc, ils avaient tous joué le jeu, effectivement, en faisant des remises, des offres. Donc, ça sera encore le cas cette année, pour cette 20e.
Eh bien, en tout cas, on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde et une pleine réussite hein, pour ce Salon des Vins, ce 20e Salon des Vins. C'est du côté de Bazeille, samedi 4 mai, dimanche 5 mai. C'est organisé par l'association Millésime 08, dont vous êtes le président, Pascal Jean, avec 30 vignerons, des métiers de bouche, le bar à huîtres, des ateliers culinaires et sommellerie animés par les étudiants du lycée hôtelier de Bazeille, des accords mets et vins en synergie avec les vignerons, atelier œnologie animé par votre œnologue Thomas, des offres anniversaires, de quoi passer un bon week-end, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, et on n'a presque pas besoin du soleil, parce que de toute façon, c'est couvert.
Tout à fait, oui, effectivement, ils n'annoncent pas du beau temps, mais bon, nous, ça nous va bien, on est en intérieur, donc ça va bien, et puis, bon, je pense qu'effectivement, comme vous dites, ça va être un très bel événement, donc à partager naturellement bah, avec le plus grand nombre, hein, les amateurs comme les néophytes. Voilà, on sera content de recevoir tous nos visiteurs.
L'invitation est lancée pour vous retrouver du côté de la salle des sports de Montvillers, samedi de 10h à 20h, dimanche de 10h à 18h, les 4 et 5 mai. Merci Pascal Jean, président de l'association Millésime 08, d'avoir été avec nous par téléphone. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite un excellent salon.
Merci Alexis, à très bientôt, merci.
18h58, il nous reste deux petites minutes à passer ensemble. Le temps pour nous de regarder les tendances météo de ce vendredi à Reims et dans les Ardennes. Avec notre stagiaire à la rédaction, Alice Dark. Rebonsoir Alice.
Rebonsoir Alexis, rebonsoir à toutes et à tous.
Les tendances de ce vendredi, mais aussi de cette nuit.
Pour votre nuit de ce jeudi, est annoncée... Votre nuit de ce jeudi est annoncée nuageuse et fraîche avec environ 5 degrés à Reims et dans les Ardennes. Demain, les températures matinales seront plus élevées que celles de ces derniers jours, avec 9 degrés à Reims, 8 degrés à Vouziers, 7 à Sedan et Rethel, et 6 degrés à Charleville-Mézières. Un ciel gris et nuageux recouvrira Reims et les Ardennes. Le ciel ne se dégagera pas dans l'après-midi et des averses sont prévues à Sedan et Vouziers. Les températures augmenteront pour rester aux alentours des 14 degrés. Le soleil montrera le bout de son nez pour votre soirée de ce vendredi et les températures seront de 11 degrés. Le ciel sera voilé du côté de Vouziers. Demain, nous fêterons les Alidas.
Eh bien, merci Alice. On souhaite en avance une très bonne fête à toutes les Alidas et on vous souhaite une très bonne soirée. On vous retrouve demain, 18h10, pour le magazine régional. Nous serons notamment avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Nous serons aussi avec Jacques Cohen, comme quoi, même en local, on garde les fidèles du vendredi pour vous accompagner pendant cette période de vacances scolaires. Si vous en avez, profitez bien. Si vous n'avez pas cette chance, eh bien, on vous souhaite bon courage au travail et on vous souhaite également une bonne soirée, le tout en compagnie des programmes de RCF. À demain.